Eh bien, écoutez, bonsoir. Je suis heureuse d'accueillir ce soir le professeur Emmanuel Housset, qui est professeur à l'université de Caen. Vous êtes à Caen depuis 1996, du moins à l'université, j'entends. et vous avez de nombreuses fonctions dans cette université, notamment vous dirigez l'équipe Identité et Subjectivité depuis septembre 2011. Vous dirigez aussi les cahiers de philosophie de l'Université de Caen et la bibliothèque de philosophie politique et juridique. Voilà, vous êtes associé aux archives du CERD. Donc votre recherche, je pense que beaucoup de ceux qui sont dans la salle la connaissent un peu. Bon, bien sûr, centrée sur la phénoménologie, qu'il s'agisse de Husserl, Heidegger, Edith Stein, Merleau-Ponty, Lévinas, Michel Henry et bien d'autres, avec un intérêt tout particulier aussi pour la métaphysique et l'histoire de la métaphysique. Le colloque que vous avez organisé la semaine dernière sur l'essence du fondement en est encore un bon exemple, mais vos livres aussi, sur votre livre sur l'histoire du concept de personne, enfin autour de la notion de personne. Un intérêt aussi tout particulier autour de la phénoménologie du corps et pour l'affectivité. Alors, je n'énumérerai pas tous vos livres, mais je vais en énumérer l'un ou l'autre. Notamment, donc, Personne et sujet, selon Husserl, Husserl et l'énigme du monde, L'intelligence de la pitié, Phénoménologie de la communauté, La vocation de la personne, je ne donne pas tout le titre, mais voilà, L'intériorité d'exil, Le soi au risque de l'altérité, ou encore Husserl et l'idée de Dieu, donc paru en 2010, mais peut-être qu'il m'en a échappé, hein, plus récent encore. J'ai constaté, parce que j'ai parcouru la liste de vos articles, et j'ai constaté que le thème de la patience, vous étiez déjà familier, et que c'est certainement un thème qui vous est cher, et nous sommes d'autant plus heureux que vous ayez choisi de nous parler de ce thème. Donc j'ai relevé, entre autres, mais certains articles peuvent m'avoir échappé, un article de 2007 sur la patience des mains, publié dans un recueil Emmanuel Lévinas, Phénoménologie éthique, esthétique et herméneutique. Un article intitulé « La patience du commencement » dans la revue Nunc de juin 2007. « La douceur de la patience » revue d'éthique et de théologie morale en septembre 2008. Et puis un article tout récent que nous avons vu dans les archives de philosophie, « Anne ou la patience d'être soi » selon Kierkegaard. Et donc aujourd'hui, mais j'ai peut-être oublié quelque chose, mais vous n'hésiterez pas à le dire, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un très beau sujet, mais que je rappelle, la patience comme respect du temps dans la phénoménologie contemporaine. Donc, d'avance, merci, et je vous donne la parole.
Je commence par remercier Isabelle Baucher de son invitation. Et je dois dire qu'elle a fait preuve de beaucoup de patience, parce qu'elle m'avait invité plus de 3 fois, et à chaque fois, ça n'avait pas pu se faire. Et là, effectivement, bon, là, c'est enfin, j'ai pu venir à Paris pour parler au Centre Sèvres, ce qui me fait effectivement très très plaisir. Alors, par rapport, j'ai donné effectivement un titre assez large. La patience comme respect du temps dans la phénoménologie contemporaine. Je ne parlerai pas de toute la phénoménologie contemporaine, hein, parce que c'est extrêmement vaste. Je ne vais pas pouvoir citer tous les auteurs de la phénoménologie contemporaine. Donc, je m'en tiendrai essentiellement avec quelques remarques sur Husserl. Je vous parlerai surtout de Lévinas, un petit peu d'Henri Maldinet à l'intérieur de l'exposé, mais je n'évoquerai pas les autres grands noms, hein, de la phénoménologie contemporaine. C'est donc pour limiter un petit peu le champ dans lequel je vais travailler. Alors, pour introduire un peu cette question de la patience, je commencerai par dire que la patience peut être sans difficulté considérée comme cette capacité à attendre, à ne pas céder à la précipitation, à endurer un temps dont on n'est pas le maître. Je partirai de La Fontaine, dans Le Lion et le Rat. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. On voit là que cette vertu permet de résister à notre impatience première et au pouvoir des passions. Car, comme dit Grégoire le Grand, plus on aime quelque chose, plus à son sujet, la patience est ébranlée. Elle est donc une vertu de tout homme, ce qui permet à l'homme d'accomplir son essence. Et bien évidemment, c'est aussi une vertu pour le philosophe, dont toute l'existence est en quelque sorte une endurance de la pensée, et même, comme dit Jean Toussaint de Santy, une forme d'entêtement spéculatif. Il n'y a de pensée, toute personne qui travaille en philosophie le sait, il n'y a de pensée que dans cette persévérance qui est une fidélité aux questions philosophiques elles-mêmes. Alors, bien sûr, toute patience n'est pas bonne, et elle peut n'être qu'un endurcissement, une forme de persévérance dans le mal, comme pour l'avare, ou encore elle peut être un aveuglement, tel par exemple l'amour patient du père Goriot, qui accepte tout sans discernement. Ces quelques remarques introductives indiquent simplement que la patience est la réponse de l'homme souffrant qui, dans son engagement dans le monde, fait l'épreuve de l'adversité, car, comme dit saint Augustin dans les commentaires sur les psaumes, on n'a que faire de la patience quand on ne souffre point. Je suis très intimidé de parler de saint Augustin à côté d'Isabelle Baucher, mais je fais quelques citations quand même de saint Augustin. Et saint Augustin ajoute « Mais il faut supporter les défauts des méchants si l'on veut jouir de la société des bons. Malheur à ceux qui ne savent rien supporter, dit l'Écriture. » C'est toujours saint Augustin qui cite. Donc on arrive ainsi à cette définition de saint Augustin. La patience consiste à endurer avec bonne grâce et constance, pour la vertu ou la commodité, les choses ardues et difficiles. On voit vite que cette simple définition de départ pose beaucoup de problèmes. Elle pose peut-être plus de problèmes qu'elle ne permet véritablement d'en résoudre. Mais elle permet de nous donner quand même un point d'appui pour élaborer cette question de la patience, en mettant en lumière qu'elle n'est pas première, mais qu'elle est en quelque sorte déjà une réponse à la façon dont on est éprouvé par le monde. Cela dit, ce point de départ n'est pas suffisant pour dégager une essence de la patience. Et on ne voit pas comment concilier les différentes figures de la patience. Comme capacité à endurer, tel Ulysse au cours de son long retour dans sa patrie, la patience n'est pas sans espérance. Mais on peut reconnaître qu'à force de s'endurcir, elle peut également devenir une résignation. Bien évidemment, dans la tempête, il peut être plus judicieux de mettre en panne en réduisant la voilure, de façon à attendre un moment plus opportun pour repartir. Mais encore une fois, par rapport à cette nécessité d'attendre pour agir, deux dangers au moins menacent. Il y a d'abord, comme on dit, le danger de l'abandon aux circonstances, de cette forme de passivité dont Nietzsche dit dans « Ainsi parlait Zarathoustra » qu'elle est la patience de l'âne, la patience de celui qui dit oui parce qu'il ignore le non, c'est-à-dire finalement pour Nietzsche, il renonce. Quand la passivité est un abandon de sa liberté, il n'y a là aucune forme de vertu. Cependant, il y a encore un autre danger, celui que Nietzsche, encore lui, nomme le faux semblant de la sérénité grecque. C'est dans la naissance de la tragédie qu'il évoque ces questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là ? Ce serait cette façon supraterrestre de répondre à tout ce qui accable et provoque notre déchéance. Dans ces deux formes de réponse, il s'agit en réalité peut-être, c'est au moins l'hypothèse que j'avance, il s'agit peut-être de fuir devant ce qui est grave et redoutable. Cette patience est donc un produit de la crainte. Or, cette fuite peut s'interpréter comme une fuite devant le temps, que ce soit dans une pure soumission au temps ou dans une élévation vers une activité supratemporelle de l'homme qui vit le regard tourné vers les idées. Alors, il est difficile de contester la nécessité de s'endurcir, de se blinder par rapport aux épreuves du temps. Hein, et comme dit Champfort, c'est célèbre, il faut que le cœur se brise ou se bronze. Néanmoins, toute la difficulté est de faire en sorte que cet endurcissement ne devienne pas un refus du temps, une forme de non-respect du temps. En effet, ce respect du temps est à la fois une reconnaissance de notre finitude et une prise de conscience de l'irréductible altérité du temps. Le temps est ce qui échappe à méprise, que ce soit le temps du monde, le temps d'autrui ou son propre temps intérieur. Cette endurance de l'altérité comme respect du temps est alors aussi bien la vertu du politique que du poète, ce qui peut fonder une amitié, aussi bien que la vie philosophique. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, ce respect du temps est peut-être ce qui est devenu le plus difficile. Un des signes de cette difficulté est le fait que la patience, qui était considérée comme une vertu principale dans l'Antiquité, chez les pères de l'Église, dans la philosophie médiévale et même encore à la Renaissance, perd peu à peu sa place. Cette mutation n'est pas due au hasard, mais à l'évolution même de la compréhension de l'homme. L'homme devient l'être, c'est ce qu'on appelle la modernité, l'homme devient l'être qui se représente lui-même et qui, par ses résolutions, se détermine lui-même. Il devient ainsi le créateur de lui-même. Car finalement, c'est par sa seule conscience de lui-même qu'il accède à la liberté. Le mot « patience », quand on regarde les textes, le mot « patience » devient lui-même plus rare et se trouve remplacé, par exemple, par « force d'esprit ». Comme le note Heidegger dans ce texte qui s'intitule « L'époque des images du monde », qui se trouve dans « Chemin qui ne mène nulle part », les temps modernes, c'est la conquête du monde comme image conçue. C'est-à-dire finalement ce règne de la représentation. Or, dans ce règne de la représentation, il n'y a plus véritablement d'entente du présent, puisque ce n'est plus la chose même qui déploie sa temporalité, et c'est au contraire le sujet qui fixe aux choses les conditions de leur manifestation. Alors, sans trancher ici sur le fait complexe de savoir si ce tournant a lieu avec Descartes ou avec Kant, c'est une question très discutée. Il n'en demeure pas moins que la patience perd sa dimension affective. Cette idée d'être soumis aux épreuves du monde et qu'elle devient une sorte de pure autodétermination de la volonté humaine. L'homme patient, selon la modernité, l'homme patient est celui qui se tient absolument lui-même dans ses buts qui peuvent être infinis. On voit bien que le modèle de la patience, ce n'est plus Ulysse, Job ou la prophétesse Anne, mais le savant qui vit pour des tâches infinies. On est ainsi très éloigné de l'hypomonée de la Bible avec cet idéal d'une patience purement active que l'on se donne à soi-même. La patience devient une forme de constance par laquelle, en toute occasion, j'affirme ma liberté. Alors, cela ne conduit en aucune façon à nier la faiblesse humaine, la fatigue, le désespoir, la lâcheté, la bassesse, la nonchalance, la paresse, etc. Mais cela conduit tout de même à faire de la patience uniquement la forme d'un travail sur soi. On voit bien que dans cette compréhension moderne de l'homme, par la représentation, il ne peut pas y avoir de véritable prise en compte de la passivité de la patience. Plus précisément, la patience n'est plus qu'un mode du rapport à soi et elle n'est plus considérée comme un mode du rapport au monde et donc comme un mode de la transcendance. En effet, elle n'est plus une reconnaissance de l'altérité du temps, c'est la conséquence, mais une façon de maîtriser le temps en fonction des exigences du sujet. Il ne s'agit plus de savoir attendre ce qui vient en son ton propre, et la persévérance devient surtout une forme d'obstination dans le maintien de ses propres buts idéaux. Alors, Bien évidemment, je brosse là une rupture à grands traits. Et il ne s'agit pas du tout de dire que tous les modernes portent cette compréhension de la patience. Autrement dit, tous les modernes ne font pas de la patience une simple constance résolue. Et de Kierkegaard à Rilke, on trouverait bien évidemment une autre intelligence de la patience. Mais je cherchais simplement à montrer la rupture entre les époques, pour souligner effectivement que aujourd'hui la question de la patience se pose dans un contexte tout à fait particulier. On peut se demander si cette constance résolue de la modernité, on peut se demander si cette constance résolue n'est pas une ruse de l'impatience. Alors, certes, elle s'oppose à la pure passivité de la résignation. Cependant, cette pure affirmation de la résolution n'est plus vraiment l'endurance d'une altérité qui échappe à nos prises. Bien sûr, l'impatience, comme incapacité à prendre son temps, et c'est qu'il s'agit de surmonter. Mais en outre, on peut ajouter qu'elle est peut-être notre état le plus habituel, de telle sorte que c'est toujours à partir de l'impatience que nous parlons de la patience. Certes, il y a plusieurs formes de l'impatience. Il y a l'impatience de celui qui papillonne de désir en désir et vit dans l'instant vide de la répétition, si bien décrit par Kierkegaard dans son analyse du Don Juan de Mozart dans l'Alternative. Don Juan, pour Kierkegaard, c'est celui qui n'a pas de patience, même pas la patience, dit Kierkegaard, du séducteur, c'est-à-dire celui qui a un plan et qui tente de le mener jusqu'au bout. Pour Kierkegaard, Don Juan est quelqu'un qui vit au rythme de ses désirs, mais qui en quelque sorte n'anticipe pas, ne prévoit pas, et en ce sens-là, il ne fait pas preuve de, il n'a aucune forme de patience. Cependant, cette incapacité à endurer et finalement à s'engager se retrouve peut-être également dans le volontarisme moderne. Dans cette affirmation classique, selon laquelle, quand on veut, on peut, qui conduit peut-être à forcer les choses dans un rêve de toute puissance. Que ce soit en alpinisme, en politique ou en philosophie, on peut mesurer le coût de ce volontarisme. Et l'urgence de l'action n'est peut-être pas, c'est des thèses que je tenterai de défendre, l'urgence de l'action n'est peut-être pas nécessairement liée à un tel non-respect du temps. Autrement dit, l'impatience peut prendre différentes figures et son caractère commun est de vouloir finalement en avoir fini avant même d'avoir commencé. C'était un trait d'essence de l'impatience. Si on ne veut pas comprendre l'impatience seulement psychologiquement, mais bien ontologiquement, c'est-à-dire comme mode de rapport au monde, alors il convient de voir en elle, effectivement, un mode sur lequel on n'est pas véritablement ouvert au monde. L'impatience, qu'elle soit une vie soumise au désir ou une volonté d'exercer une mainmise sur le monde, par l'usage des représentations, est toujours pour le sujet une façon de se faire la mesure de toute chose et d'imposer son temps, celui de ses désirs ou de ses projets, aux autres et aux choses. Tout cela pour dire qu'il est impossible, sur cette question de la patience, de séparer la temporalité du rapport à soi et la temporalité du rapport aux choses. Or, la phénoménologie, dans son histoire et dans ses crises, se trouve au cœur de cette difficulté à donner une véritable place à la patience. Husserl, le fondateur de la phénoménologie, parle peu de la patience. Certes, il dit bien, j'ai tenté de chercher quand même quelques occurrences, il dit bien, les données évidentes sont patientes. Mais c'est finalement quand même pour mieux souligner que la seule attente est l'attente de soi, du sujet résolu dans la recherche de la vérité. L'une des thèses directrices de Husserl est que le temps est la forme de toute manifestation. Et tout sujet transcendant se donne à la fois comme un présent, il est là, en face de moi, en chair et en os, et comme un horizon infini de constitution. Donc, ce qu'on appelle la réduction phénoménologique conduit à mettre en lumière un jeu transcendantal que Husserl nomme parfois éternel, ce qui ne signifie pas pour lui non temporel. C'est une question assez, assez complexe. Et en tous les cas, ce jeu éternel est le jeu qui porte une tâche infinie et donc un temps infini. Donc sans entrer dans ces questions difficiles, il suffit d'indiquer pour les besoins de mon exposé que la patience est ici une fidélité à soi comme fidélité aux idées téléologiques. Donc cette philosophie qu'on nomme parfois un peu rapidement une philosophie de la volonté pure n'est pas un simple volontarisme abstrait. Elle peut très bien reconnaître une place à l'affectivité dans la vie éthique. Car, Husserl le reconnaît, il faut être touché par une valeur pour la vouloir. Il y a quelques textes dans l'éthique de Husserl qui développent cette thèse-là. Mais il s'agit bien de répondre constamment de soi, de ne pas céder à la fatigue, pour se porter vers les fins absolues. De ce point de vue, la patience n'est pas cette sérénité de celui qui ne se laisse toucher par rien, mais elle est cette tension propre vers l'infini comme pôle de la subjectivité. Dans cette façon de se temporaliser, l'homme aux tâches infinies vit dans l'inquiétude. Il ne cesse jamais d'interroger le sens de sa tâche. Tel le philosophe, c'était un des derniers textes de Husserl qu'on trouve dans les appendices de la Crisis, Husserl, dans un texte de 1936, donc vraiment à la fin de sa vie, dit « Pour moi, la philosophie n'a jamais cessé d'être une énigme ». Vous voyez, ça veut dire que la philosophie reste pour lui une question absolument continuée. De ce point de vue, la philosophie n'est pas une représentation, une idée fixe, mais un télos, une fin, qui réserve des surprises. Le vrai penseur est justement celui qui ne se bute pas dans le maintien d'une représentation, mais celui qui se laisse guider par l'objet même de sa recherche. Il y a donc, je voulais insister sur ce point, il y a dans l'exigence même de la phénoménologie, c'est-à-dire cette exigence d'un retour aux choses mêmes, une patience qui se trouve prise dans un sens tout à fait élargi. Il s'agit de considérer la chose même comme la norme de sa connaissance. Pour le dire un peu vite, la patience dans un sens élargi demande une inversion de la révolution copernicienne pour redécouvrir que c'est l'essence de l'objet qui prescrit son mode de donner, c'est-à-dire sa façon de se manifester. Dans cette désubjectivisation de la subjectivité, le sujet transcendantal ne produit pas les catégories, c'est la thèse propre de Husserl, mais les reçoit de l'expérience et les analyse. Donc, suivre ce qui se donne tel qu'il se donne, c'est, dit Husserl, je le cite là, la seule retenue que je demande, la seule patience. C'est un texte de la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, page 486. Là encore, Husserl énonce l'impératif absolu de ne pas être arrivé avant d'être parti. Ce qui arrive dans la recherche de la vérité, on voit bien que la recherche même de la vérité est donc ce respect du temps par lequel, effectivement, peu à peu, une vérité se donne à voir. Et d'une certaine façon, alors, Husserl crée très souvent le scepticisme. Et cela dit, quand il parle du scepticisme, il ne pense pas à un auteur particulier, mais plutôt à une attitude. Et pour lui, le scepticisme est peut-être l'art de perdre son temps, puisqu'en un sens, tout est déjà décidé d'avance. Donc, ces critiques du scepticisme peuvent passer effectivement pour une forme de refus de la patience, du travail philosophique. Ainsi, Husserl, tout en demeurant un philosophe de la volonté pure, ça c'est indiscutable, et de l'autonomie, ouvre la possibilité de penser à nouveau la patience en considérant, que ce soit pour les objets, les idées ou les valeurs, que le sujet n'est pas la mesure de ce qui se donne. En effet, puisque tout, alors objet entre guillemets, parce que ça recoupe beaucoup de choses, tout objet est un objet temporel. Et le respect de la phénoménalité, de la façon dont les choses se donnent, eh bien un respect de la temporalité. Néanmoins, Husserl, il faut bien le reconnaître, Husserl n'utilise pas encore le vocabulaire de la patience. Et le mot, même si j'ai trouvé au moins deux citations où il est utilisé, le mot est quand même extrêmement rare. Vous voyez, et on ne peut pas dire qu'il soit, il est quasiment absent des textes de Husserl, et par exemple, il est absent des textes sur l'éthique, hein, ce qui est quand même significatif. Et là aussi, ce n'est pas un hasard, car si Husserl tient compte de la dimension affective de l'expérience, il est plus un penseur de la réceptivité qu'un penseur de la passivité. Alors certes, il ne confond pas les deux, mais si une chose nous est toujours déjà prédonnée dans la passivité, sans quoi notre perception ne pourrait pas se tourner vers elle, la chose n'est vraiment présente à la conscience, autrement dit, n'est un objet pour notre conscience, que dans la réceptivité qui suppose déjà l'opération active du jeu. Donc cette vie passive est déjà le lieu d'une unification. Alors, synthèse temporelle, synthèse associative, c'est synthèse qui stimule le jeu. Cependant, Husserl n'a d'autre but que de décrire cet éveil du jeu. Et en cela, il n'y a pour Husserl d'expérience que dans cette activité du jeu. Je vous cite Husserl, Expérience et jugement, paragraphe 17. Manifestement, le concept normal d'expérience, perception, souvenir, etc., vise l'expérience active qui se parachève ensuite en explication. Alors, cela suffit pour mettre en lumière que c'est là que je voulais en arriver, le concept même d'expérience qui ne permet pas de laisser véritablement de place à la patience. Parce qu'il ne peut pas laisser de place à une passivité radicale qui n'aurait pas pour fin l'activité du jeu. Ainsi, une pensée de la patience n'est possible que dans le cadre d'une philosophie, d'un pâtir originaire et d'une herméneutique de la finitude, qui dévoile l'homme non plus comme sujet constituant, mais comme sujet répondant. Ainsi, ce respect du temps, qu'est la patience, suppose une autre compréhension de la subjectivité, dans laquelle elle n'est plus un système d'être fermé sur soi, comme disait Husserl, mais est au contraire une subjectivité ouverte, exposée. C'est alors que la temporalisation de soi n'est plus simplement l'acte de se constituer dans l'unité et dans la continuité d'une histoire, en fonction d'idées infinies, mais la temporalisation de soi est aussi faite de discontinuité, de rupture, liée à des événements qui ne se laissent pas constituer en expérience, au sens husserlien du terme, et qui, dans leur caractère irréductible, sont également une origine du devenir soi. Donc la temporalisation originaire serait donc, je reprends toujours cette expression, une forme d'endurance de l'altérité. Selon cette nouvelle perspective, la patience est plus que la fermeté et la constance dans l'autodétermination de la volonté. Et elle devient aussi cette forme de souplesse avec laquelle on répond à ce qu'on n'attendait pas. Dès lors, la patience ne serait ni la sérénité de la résignation, ni celle de l'autodétermination, mais elle serait au contraire cette inquiétude de l'altérité, cette attente de ce qui est au-delà du probable et du prévisible. Alors, c'est bien évidemment une telle patience qui se trouve décrite par Emmanuel Lévinas, je citais aussi tout à l'heure Henri Maldinet, et plus récemment également, on la trouve développée dans les travaux de Jean-Louis Chrétien. Le respect du temps consisterait alors à ne pas déterminer à l'avance ce qui va arriver et ce que je vais faire pour être attentif à l'unicité de chaque rencontre. C'est à cette condition que la persévérance, en quelque sorte, n'est pas une obstination. Selon cette nouvelle approche, la patience n'est pas une capacité que l'homme se donne, voire un savoir-faire pour bien user du monde, mais elle signifie la facticité même de l'existence humaine. Elle est la façon dont on répond au poids du monde, autrement que par la fuite, la résignation, l'indifférence, l'ennui et bien sûr par les multiples figures de l'impatience. Elle est donc d'abord la reconnaissance de notre engagement dans le monde, que nous sommes pris par lui avant de prendre part à lui. Le mode premier de notre existence est de pâtir. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, il y a bien une forme première de dépossession, qui n'est pas nécessairement un abandon. La constance existentielle ne tient pas d'abord au pouvoir de dire « je », c'est la thèse que je tente de développer, mais au contraire à la possibilité d'attendre, de s'attarder, d'écouter, que ce soit face à un paysage, à une situation économique, sociale ou historique, face à autrui, ou encore face à un texte ou face à une aporie. Il y a dans l'événement, y compris dans la crise au sens le plus fort du terme, un pouvoir de rassemblement, car s'y loge un impératif, celui finalement de tenter de parvenir à répondre de cette situation. La perfection de la patience ne se trouve pas alors dans le fait que de tenir le plus longtemps possible dans un acte héroïque, mais peut-être dans le courage d'une réponse finie. Et cela déplace considérablement la question. Or, s'il y a un phénoménologue qui a compris le pâtir comme un mode de la transcendance et la patience comme une endurance de l'altérité, c'est bien Emmanuel Lévinas. Pour m'en tenir aujourd'hui à quelques textes de Totalité et Infini et d'autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Lévinas montre que c'est en rompant avec la conception du sujet, substrat d'accident, qu'il est possible de revenir à l'expérience de la déchirure, de la nudité, de l'exposition, et il peut alors comprendre la patience comme le mode même de l'être au monde. Cette patience n'est pas un dévoilement, et là je le cite, un laisser-être, l'extériorité radicale, dont a été incapable toute la philosophie occidentale depuis Platon. Alors je laisse la responsabilité de cette phrase à Lévinas, proposition qu'il nuance dans bien d'autres textes, bien évidemment, où il montre effectivement que dans la philosophie occidentale depuis Platon, il y a de nombreuses percées vers effectivement ce qu'il tente de décrire. Autrement dit, si vous voulez, ce qu'il tente d'identifier, c'est que la philosophie occidentale aurait toujours tenté de ramener le lointain au proche. Or, ce qui s'oppose à la patience, c'est, alors d'un terme qui peut être mal compris, c'est l'athéisme. Mais au sens que lui donne Lévinas, d'une indépendance absolue par rapport à toute relation, à une altérité. Oui, je le dis, je le reprécise en passant, ce qui fait la grande difficulté de la lecture de Lévinas, c'est que Lévinas se réapproprie du vocabulaire théologique, mais en lui donnant souvent une signification très différente. Donc il faut vraiment donner, faut vraiment chercher dans Totalité et Infini les définitions que Lévinas donne lui-même à ces termes. Parce qu'effectivement, si on va chercher dans un dictionnaire de théologie catholique le terme, la signification du terme et qu'on tente de comprendre le texte de Lévinas à partir de là, on n'y comprend plus rien du tout. Donc ça fait partie, si vous voulez, du travail philosophique que de réinvestir des termes d'une autre signification. Alors, donc je voulais juste prendre cette précaution sur l'usage des termes de la conceptualité par Lévinas. Dans cette pensée de la patience, il ne s'agit pas de trouver un autre fondement, et autrui, notamment, en aucune façon, ne devient le fondement de ma volonté. Si le fameux thème du visage dans Totalité et Infini est plus un ensemble de questions qu'un concept fixe, parce que tout Totalité et Infini est en fait une analyse du visage, c'est parce qu'il est en lui-même le refus de toute pensée du fondement. Un refus qui sera encore radicalisé avec autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Donc Lévinas veut justement échapper à l'alternative de la patience comme autodétermination et de la patience comme soumission pour montrer qu'il y a un pâtir qui est la condition de la liberté. Il faut donc dépasser l'opposition de la passivité et de l'activité pour envisager cette passivité plus originaire liée à notre existence corporelle. Manquer le corps, c'est manquer le temps et donc manquer la patience. Là, il y a toute une série, effectivement, d'équivalences. Il est possible alors de reformuler le lien d'essence entre patience et souffrance, en prenant la souffrance, cette fois en un sens très large, d'une ouverture à ce qui ne vient pas de soi, et donc d'un mode de la transcendance avant toute forme d'intention ou de projet. Lévinas écrit, dans Totalité infinie, « La souffrance de l'être recueilli, qui est la patience par excellence, pure passivité, est à la fois ouverture sur la durée, ajournement dans cette souffrance. » Dans la patience, c'est toujours la citation, hein, « Dans la patience coïncide l'imminence de la défaite, mais aussi une distance à son égard. L'ambiguïté du corps est la conscience. » Alors, je ne vous cache pas que ces textes sont difficiles de commentaire, assez énigmatiques, et qu'il faudrait les prendre vraiment point par point pour en dégager toute la signification. Mais au moins, je peux dire que ce texte montre que la patience, c'est la conscience corporelle dans cette ambiguïté fondamentale d'être lié à la chose et finalement de s'en détacher sans cesse. Ainsi, Lévinas voit par exemple dans le tâtonnement de la main ce mouvement de compréhension de l'altérité qui fait face justement à l'indétermination de la matière. Dans toutes ces analyses, il s'agit de montrer que la volonté n'a pas à être héroïque, mais elle a à être sainte. En définissant cette fois la sainteté, justement, par l'ouverture à la transcendance. La transcendance d'autrui, c'est justement ce qui fait sa sainteté, qui indique le devoir de son inviolabilité. De ce point de vue, la patience est bien le respect du temps, car elle est ce qui permet d'être libre et donc de pouvoir se projeter dans l'avenir. La patience n'est donc pas un oubli du temps ou une indifférence par rapport au temps, mais ce qui précisément donne le temps. Je cite encore Lévinas, page 266 de Totalité infinie. Dans la patience s'accomplit un dégagement au sein de l'engagement, ni impossibilité d'une contemplation survolant l'histoire, ni engagement sans retour dans son objectivité visible. Les deux positions fusionnent. Donc, fin de la citation. En effet, donc, on voit là que, dans la patience, l'épreuve de la violence peut devenir une épreuve de la liberté. C'est l'enjeu, bien évidemment, d'une réflexion sur la patience. J'apprends à être libre dans une situation de violence en prenant distance par rapport au présent. Ainsi, la patience est bien une façon d'habiter le monde qui préserve une capacité d'échappement dans la conscience que je suis plus que ce qui m'arrive. Il s'agit bien d'un respect du temps, car la patience est la capacité à se détacher du présent, non pour le fuir, mais pour mieux l'appréhender, notamment en tant qu'il est riche de possibilités futures. Alors, cela dit, on peut se demander quelle liberté demeure dans le présent de la souffrance, puisqu'en elle, comme dit Lévinas, on est acculé à l'être. C'est l'expression même de Lévinas. La force des analyses de Lévinas dans ses pages sur la patience, globalement c'est entre la page 263 et 267 hein, de l'édition de poche de Totalité infinie, la force de ces analyses de Lévinas est de respecter la passivité justement propre à la souffrance, en montrant qu'elle ne correspond pas à une forme d'activité. Autrement dit, Lévinas ne cède pas à la tentation qui consisterait simplement à faire de la souffrance ou de la passivité la cause occasionnelle d'une activité par laquelle le sujet se reprendrait et pourrait se déterminer lui-même. La souffrance demeure un malgré la conscience et un par l'autre. Et Lévinas, en aucun cas, ne revient à une philosophie de la volonté qui ferait du choix libre ce qui décide du sens de la souffrance. En effet, il ne s'agit pas de substituer une liberté à une passivité, mais de mettre en lumière que la seule liberté qui demeure dans la souffrance, le seul acte possible, c'est justement la patience qui n'est pas un endurcissement, mais qui est une espérance. Je le cite à nouveau, « Cette passivité ultime, qui se mue cependant désespérément en acte et en espoir, est la patience. La passivité du subir est cependant la maîtrise même. » Donc par rapport au temps de l'histoire, un regard de spectateur est impossible. Et la totale passivité, bien évidemment, n'est pas une vie. La patience est alors cette liberté de l'être qui ne veut envisager son agir qu'à partir d'un pâtir, qui à la fois le prend, mais qui, s'il parvient à prendre distance, le libère de lui-même pour l'envoyer là où il a quelque chose à faire. L'épreuve suprême de la volonté est la souffrance, dit parfois Lévinas, car elle est la volonté, car en elle, justement, la volonté se fait patience. Alors, justement, attention, pas une patience sereine, mais une patience fragile, toujours au bord de la rupture, dit Lévinas. Je le cite à nouveau, « Ainsi seulement la violence reste supportable dans la patience. Elle ne se produit que dans un monde où je peux mourir par quelqu'un et pour quelqu'un. » C'est page 267. On voit bien dans ces citations qu'on se trouve ici aux antipodes d'une patience tranquille, de cette calme sérénité évoquée tout à l'heure, de celui qui veut prendre de la hauteur par rapport au monde. Lévinas donne à voir une patience, on l'a dit, inquiète, fragile, finie. La patience est ici à la fois l'ultime résistance à une volonté de négation et un engagement, dégagement, hein, il y a les deux dimensions, qui permet de donner sa vie. Il est impossible de fuir la haine et la souffrance qu'elle engendre. Cependant, je peux tenir pour autrui, je peux souffrir pour lui. Il y a donc une dimension sociale de la souffrance, dans laquelle l'espérance peut reprendre sa place. Je cite encore Lévinas, « Dans la patience, la volonté perce la croûte de son égoïsme et comme déplace le centre de sa gravité hors d'elle pour vouloir, comme désir et bonté, que rien ne limite. » Cette analyse de, on voit là, cette analyse de la patience, en fait, traverse toute son œuvre. Il y a des pages où elle est explicitement travaillée, mais elle traverse toute son œuvre. Et elle se retrouve, par exemple, dans la très célèbre analyse de la caresse, qui n'est pas une prise, mais une approche et un respect d'un avenir. Alors, il y a respect dans la mesure où cet avenir inimaginable, qui n'est pas un simple possible, encore une fois, est ce qui tient en respect. Je précise un petit peu l'usage qu'on peut faire du terme de respect. Hein. C'est ce qui tient en respect. Lévinas, alors je tiens à préciser ce que c'est moi qui introduis le terme de respect, c'est pas Lévinas. Lévinas n'utilise pas véritablement ce terme qui sans doute pour lui appartient trop aux philosophies du sujet qu'il tente de renverser. Hein. Et d'une certaine façon on peut dire que Lévinas renverse le renversement kantien qui, selon lui, justement, a substitué le respect à l'amour. Donc, beaucoup de difficultés, du coup, pour utiliser ce terme de respect. Hein, donc, encore une fois, c'est moi qui l'introduis, il n'est pas dans les textes de Lévinas. Donc, le respect ne peut pas avoir ici le sens d'un sentiment pur pratique et il n'est en rien une capacité a priori de pâtir. Dans ce qu'on pourrait appeler cette contre-révolution, en quelque sorte, il ne s'agit pas du respect pour une loi éternelle, mais d'une attention à l'évanescent, au fugitif, à ce présent qui ne se laisse pas figer en un moment d'une totalité, d'où le sens du titre « Totalité et infini ». Lévinas lui-même fait le lien entre ses analyses sur la patience et celle sur la fécondité. Il décrit la relation à l'enfant comme une relation à l'infini. Infini qui n'est pas, dans le vocabulaire de Lévinas, la négation du fini, mais l'excès. Hein, justement, sur ce point, il montre qu'il ne s'agit pas là du germe aristotélicien ou de la possibilité heideggerienne, et il définit ainsi la fécondité, je le cite, « la relation avec un tel avenir, irréductible au pouvoir sur des possibles, nous l'appelons fécondité ». Alors là aussi, hein, c'est comme pour le féminin, il faut se retirer toute image, comment dire, réaliste et empirique, sinon on fait un contresens massif sur le texte de Lévinas. Hein. Lévinas dit à propos du féminin, on peut parler du féminin à propos de la demeure sans qu'il y ait aucune femme empiriquement dans la maison. Ça n'a aucun rapport avec la question. Hein. Donc là, il s'agit de montrer que mon enfant, c'est le paradoxe, est un étranger qui est moi. Et c'est bien au cœur de ce paradoxe qu'il est possible de comprendre que l'enfant n'est pas une possibilité de moi-même et qu'en cela, la paternité est un désir inassouvissable. Et quel est ce désir? C'est le désir que l'enfant soit lui-même. Ainsi, le respect de l'enfant n'est pas que le respect du temps qu'il lui faut pour développer son essence, par exemple, mais surtout le respect d'un avenir absolu. La patience ne consiste pas à entendre que le probable développement de capacités déjà là ait lieu. Hein. Mais la patience consiste à espérer, en quelque sorte, l'inimaginable, même contre toute probabilité. Hein. Tel est un amour qui n'est pas fusion, justement, mais fécondité. La patience est bien dans cela l'essence de la liberté humaine, et c'est en elle que, je cite Lévinas, la transcendance étend et va vers autrui. Donc la paternité est une façon d'être autre tout en étant soi-même, dans laquelle il ne s'agit plus de somnubiler dans une identité stable, donc ni de figer son fils dans représentation déterminée, pour reconnaître justement la discontinuité radicale de l'existence, aussi bien du fils que du père. Donc la patience, on voit là, dessine alors une autre figure de l'être-soi, hein, une toute autre figure de l'être-soi, dans laquelle c'est là où je suis en exil que je deviens moi-même. On retrouve ainsi une idée ancienne que le chez-soi n'est pas un bien qu'il faut protéger contre les vices du temps, mais en quelque sorte un avenir. La patience n'est plus alors la patience fermée de l'avare qui tremble pour sa cassette, hein, mais c'est cette patience ouverte dans laquelle le moi est à venir dans la rencontre du monde. L'homme patient n'est pas celui qui se crispe sur l'image d'une identité stable, mais l'homme souple qui advient à lui-même dans la rencontre et est ainsi en quelque sorte libéré de ce que Kierkegaard appelle le face-à-face démoniaque avec lui-même. Il est clair qu'une telle attente est déjà un dessaisissement de soi, dans la mesure où elle n'exige rien. Elle ne fixe pas de conditions, de telle sorte que ce que l'on apprend, on ne puisse l'apprendre que dans la rencontre. Par exemple, puisque je citais tout à l'heure Saint-Augustin, la lecture des confessions est un exercice de la patience. Il faut tenter d'entendre Saint-Augustin selon sa parole propre, même si le temps de l'Antiquité tardive ne nous est plus directement accessible. Ensuite, il faut accepter de suivre la temporalité propre de l'ouvrage, au lieu par exemple de la briser en isolant tel ou tel passage, par exemple les passages sur la mémoire ou le passage sur le temps. Et on voit bien là, je prenais juste cet exemple-là, qui n'est pas dans Lévinas, je prenais juste cet exemple-là pour dire que, en un sens, toute vraie lecture est un exercice de la patience et est une évasion au sens de Lévinas. Hein, c'est-à-dire au sens, je le cite, je cite le texte de l'évasion, hein, je reprends cette citation-là, « Aussi l'évasion est-elle le besoin de sortir de soi-même, c'est-à-dire de briser l'enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même. » Donc la patience n'est pas une existence inaltérable et elle donne à penser au contraire un moi brisé par l'altérité qui l'affecte et qui est alors mis en quelque sorte en demeure de renaître, hein, de revenir en quelque sorte à lui-même à partir de cette épreuve. Cette surprise de la réalité, qui dans ce qu'elle a d'irréductible à toute représentation, me contraint à devenir non pas autre, mais tout autre, elle est ce qu'un autre grand phénoménologue, je l'ai cité tout à l'heure, Henri Maldinet, nomme la transpossibilité. Ah, c'est un concept propre à Henri Maldinet, la transpossibilité. En effet, même pour l'attente d'un ami, d'un proche, celui qui arrive est toujours autre que l'image que j'avais pu m'en faire. Et cette surprise est la marque même de la réalité. Il n'y a de rencontre que dans le surgissement d'un autre selon une unicité absolue qui brise toute anticipation. Ainsi, cette patience est ce qui permet la rencontre d'autrui comme prosopone, comme personne au sens d'un visage éclairant. L'autre, je donne une citation d'Henri Maldinet, dans Penser l'homme et la folie, l'autre apparaît ainsi en personne dans l'espace même de notre présence ouverte, qu'il informe imprévisiblement. Donc c'est lui qui m'informe. Donc la présence ouverte est ainsi cette endurance de l'altérité, l'expression est d'Henri Maldinet, c'est à lui que je la reprends. C'est une endurance de l'altérité qui permet de s'endurer soi-même dans cette rencontre. On voit alors que cette patience, comme respect du présent, n'est pas un a priori pathique, un a priori du pâtir, et qu'elle a bien lieu à partir de ce qu'elle n'a lieu qu'à partir de ce qu'on se donne sur le mode de l'irréductible. Alors, ou encore de l'invisible, si vous voulez parler comme Merleau-Ponty, ou de l'infini, puisque je parlais plutôt de Lévinas. La patience est alors de l'ordre de ce que Henri Maldinet, je voulais citer comme un autre concept d'Henri Maldinet qui est très important, qui est lié au second, ce que Henri Maldinet norme le transpassible. Alors c'est des concepts un peu complexes, hein. Transpossible, transpassible, mais disons que ce sont les deux concepts structuraux de la pensée d'Henri Maldinet. Hein, alors c'est quoi cette transpassibilité? C'est justement cette présence ouverte, sans projet ni souci, à ce dont nous ne sommes pas a priori passibles. Vous voyez, c'est ça la définition, je reprends cette définition à Henri Maldinet lui-même, hein. Cette ouverture à ce dont on n'est pas a priori passible. Alors, j'avais besoin de ces deux concepts, si vous voulez, pour montrer que l'impatience est alors la fermeture à la rencontre, à l'événement, à la nouveauté, au visage. Et du coup, cette impatience est aussi ce qui me fait perdre à moi tout visage. Elle est finalement l'impossibilité d'exister, ce que je ne peux pas anticiper. Et la référence à ces deux concepts, du transpossible et du transpassible, avait encore une fois uniquement pour but de montrer que la patience ne relève en aucune façon du dolorisme, hein, mais qu'elle est la façon proprement humaine de prendre en charge l'être comme ce qui se donne, comme ce dont je pâtis. Alors, dans le texte d'Autrement qu'être, au-delà de l'essence, Lévinas va pousser encore plus loin l'analyse que j'avais déjà esquissée avec totalité infinie, en montrant que la patience est vraiment cette passivité première qui est exposition avant toute interrogation. La patience n'est pas un pouvoir de synthèse, là on est très loin de Husserl, elle n'est pas un pouvoir de synthèse, et Lévinas parle de la diachronie inassemblable de la patience. Là, il y a des analyses quand même un peu nouvelles par rapport à totalité et infinie. La diachronie inassemblable de la patience. Dans un sentir qui est jouissance et blessure avant d'être représentation. Je le cite encore, le dire est le sens de la patience, car elle est l'ouverture à un sens qui ne vient pas de la conscience. En cela, la patience n'est pas un pur pâtir, mais elle est la possibilité d'une liberté dans la non-liberté. C'est toujours le même problème. Hein. Comment penser une liberté dans la non-liberté? C'est ça la porie, hein, auquel on se heurte dans une pensée de la patience. Elle est donc une maîtrise hors de tout volontarisme, qui doit se comprendre à la fois comme une déchirure inutile dans le jeu du monde, autrement dit, elle ne répond pas à une fonction, et comme le pour l'autre de l'existence, qui est justement ce que Lévinas appelle l'autre manque être. Cette thèse se laisse mieux comprendre dans l'opposition continue de Lévinas à Sartre. Hein. Et en fait, la présence de Sartre, même si le nom n'est pas prononcé dans ces textes, mais là, il m'a toujours semblé que la présence de Sartre était très importante dans ces textes-là. En effet, la patience originaire, qui n'est pas corrélative d'une volonté, montre que la responsabilité pour autrui ne saurait découler d'un engagement libre. Vous voyez, c'est là que se situe l'opposition à Sartre. Autrement dit, ça ne résulte pas du présent d'une conscience. Pour Lévinas, la patience est préalable à l'engagement. Et c'est pourquoi elle est la vie même. Vous voyez, il inverse, il tente de montrer une patience avant toute forme d'engagement. Le respect du temps et le respect, justement, de cet avenir inanticipable, c'est-à-dire ce respect de l'autre, comme Lévinas le disait déjà en 48, dans Le temps et l'autre. Cette durée, malgré soi, qu'est la patience, est cette manière dont l'autre vient vers soi. Et passer à côté de cette assignation conduit à faire du sujet et du temps de pures abstractions. Alors, sans exclure, il ne s'agit pas d'exclure la persévérance du moi actif, hein, qui se tient dans un acte de totalisation de son passé et d'anticipation, Lévinas veut montrer qu'il y a antérieurement à cette persévérance une diachronie de la patience originaire, comprise effectivement comme assignation. Hein, c'est la patience de l'assigné. Qui fait face à ce qu'il appelle, c'est un concept complexe dans Autrement qu'être au-delà de l'essence, qui fait face à un laps de temps qui est irrécupérable justement dans un processus de totalisation. Donc il ne faut surtout pas entendre laps de temps comme un moment du temps, comme le moment dans une chronologie. Ce laps de temps, c'est vraiment un concept, hein, lévinassien, ce laps de temps n'est pas mémorable et pourtant il est la vie originaire elle-même. Il a lieu en moi, sans moi, et pour Lévinas, il ne relève pas justement de la pure présence à soi. Et ce temps qui ne relève pas de la présence à soi, c'est ce qu'il nomme, c'est un autre concept, le vieillissement. Oui, mais c'est ce qui rend, encore une fois, ce qui rend la lecture de Lévinas très complexe, c'est qu'il faut vraiment entrer dans sa conceptualité. Dès lors, la patience de l'assigné est une dépossession de soi, une réception d'une unicité en dehors, au-delà du principe d'identité. Cette assignation est toujours plus ancienne que tout présent de la réflexion. On voit bien que cette patience, là c'est une expression de Lévinas, cette patience de la vulnérabilité décrit une sensibilité antérieure à l'intentionnalité de la conscience, dans laquelle la responsabilité peut trouver sa signification. Dans cette exposition désintéressée du corps à l'autre, dans ce pour l'autre de la sensibilité, s'ouvre justement la possibilité de ne pas se dérober à sa charge qu'impose la souffrance des autres. Notamment, c'est moi qui prends cet exemple, dans la parabole de l'enfant prodigue, la persévérance du père n'est pas une qualité qu'il se serait donnée à lui-même, mais elle est, si, en suivant les analyses de Lévinas, hein, mais elle serait la paternité elle-même comme avenir au-delà de tous les possibles. Cela montre qu'il n'y a pas de patience purement personnelle, car elle est à tout moment un débordement, je cite Lévinas, un débordement du sens par le non-sens, dans la possibilité de souffrir pour rien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore dans la pensée de Lévinas, par et pour l'autre. C'est ça ce qu'il tente de décrire. Pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonction dans le monde. Ce n'est pas utile à quelque chose. Voyez. Ainsi, comme inquiétude, la patience de cette responsabilité antérieure à tout engagement libre permet de comprendre une responsabilité qui est une expulsion de soi, hors de soi. Et c'est ce que Lévinas nomme la substitution. Nouveau concept théologique que reprend Lévinas, et qui consiste à se laisser nommer responsable de ce qui n'est pas moi. Dans cette substitution, le moi se libère de lui-même et se fait patience dans cette non-indifférence. Ainsi, on arrive à l'idée d'une patience qui ne repose pas sur le partage d'essence commune, mais sur une élection qui me fait otage. La patience est bien l'endurance du non-sens, c'est-à-dire, encore une fois, de ce qui excède ma capacité a priori de synthèse, de ce laps de temps irréductible à toute synthèse. Et il était vraiment nécessaire pour Lévinas de mettre en évidence une patience qui puisse faire droit au surgissement de l'imprévisible de l'autre homme. Encore une fois, au-delà de toute idée d'une présence constante. Alors, cela permet de préciser qu'à travers toute cette pensée de la patience, Lévinas ne vise pas à écrire une éthique déterminée. Là aussi, il y a beaucoup de difficultés dans l'interprétation de Lévinas. Quand Lévinas écrit, je le cite, « subir par autrui n'est patience absolue que si ce par autrui est déjà pour autrui ». C'est dans Autrement qu'être, page 141. Il ne s'agit pas du tout pour lui d'une pensée du devoir, qui relève toujours déjà du sujet constitué. Le souci de Lévinas est de souligner que le pâtir est aussi et déjà une forme de l'action pour autrui. Dans la patience, la souffrance devient transitive. Donc, pour conclure, selon cette perspective, pour terminer, disons, selon cette perspective, parce que conclure c'est un grand mot sur une telle question, selon cette perspective ouverte par Lévinas, la patience n'est plus seulement ce qui vient compenser la faiblesse ontologique de l'être humain, elle n'est pas non plus une reprise philosophique de l'hypomonée biblique, selon laquelle l'homme patient est celui qui vit dans l'attente de l'éternité à partir d'une volonté brisée par Dieu. Antérieurement à la patience de l'amour envisagée par saint Paul, qui est une grâce, Lévinas cherche à décrire une subjectivité qui souffre et s'offre avant de prendre pied dans l'être. C'est son expression, hein, qui souffre et s'offre avant de prendre pied dans l'être. Et donc une subjectivité qui serait tout entière un supporté, et il le redit cette fois, un exil en soi-même. Donc on voit là que la patience n'est pas une absence de volonté dans la soumission à un temps qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire un destin. C'est pas non plus une volonté pure et héroïque que l'on se donnerait soi-même pour vaincre tous les obstacles, hein, dans une temporalisation autonome. Mais elle est bien cette forme d'endurance qui n'est pas un accident de l'existence, mais qui est la forme même de la vie personnelle. Il s'agit donc de reconnaître une passivité première, originaire, qui nous assigne et nous individue. Mais se supporter, encore une fois, n'est pas une faiblesse, car il est au contraire la sensibilité la plus excessive sans laquelle il est impossible de décider du sens d'une situation et de ce qu'il convient de faire pour y répondre. Donc, en se libérant de l'abstraction de la persévérance volontaire, il est possible de comprendre la patience comme cette ouverture au réel qui, comme ne cesse de le dire Maldinet, est toujours ce que l'on n'attendait pas. En cela, la patience est à la fois dépossession et ouverture. Ouverture sans laquelle il n'y a pas de véritable être-soi. Dans cette perspective, la finitude de l'homme n'a plus la signification négative d'une limitation et signifie que l'on ne peut pas être soi sans être en exil. C'est ça la signification, si vous voulez, de la finitude. L'existence humaine est la tâche finie de répondre à une situation, d'y être, sans prédéterminer les possibilités effectives. Cette pensée de la patience, alors, n'introduit pas, je voulais préciser ce point, de l'accidentalité, comme si on se développait au hasard des rencontres, dans une forme de vagabondage de l'existence. Mais elle montre qu'on ne devient soi qu'en étant touché, affecté par une altérité. Or, pour accéder à cette patience originaire, il est nécessaire de déconstruire, alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais parce que ça m'aurait décentré par rapport à mon propos, mais ça signifie qu'il est quand même nécessaire de déconstruire toute idée de sympathie, hein, qui relève encore de la vie intentionnelle, en montrant que la patience est antérieure à la constitution du moi et la constitution du prochain. Donc on n'est pas du tout dans une pensée de l'intersubjectivité dans laquelle la sympathie pourrait prendre une place tout à fait décisive en effet. De ce point de vue, dans la patience, je ne m'inquiète pas du maintien de mon identité, c'est finalement ça la thèse, mais je m'inquiète de l'autre homme pour lui-même. Et c'est en cela qu'elle est l'exercice d'une certaine liberté. Vous voyez, c'est là que se trouve le lieu de la liberté. La patience ne supprime donc pas la souffrance, hein, mais elle est la possibilité de donner un sens à sa vie à partir de la souffrance. On comprend alors mieux pourquoi les philosophies de la volonté pure ne pouvaient pas laisser une place à la patience. Dans leur souci de décrire une volonté infinie, qui devrait être celle de l'homme, elles ne tiennent pas compte de la finitude même de l'action humaine. Il fallait reconnaître, c'est l'apport, il me semble, incontestable de Lévinas, il fallait reconnaître que la vie est un pâtir, un poids, qu'elle est aussi une liberté et un mouvement, pour redonner une place à la patience. Ainsi, respecter l'irréductible de l'avenir absolu qu'est l'autre, qu'est l'autre homme, c'est ce qui nous donne ce présent ouvert de la patience, dans lequel, c'est ça l'intention phénoménologique, le prochain se signifie lui-même.
Un très grand merci, Emmanuel Loucet, pour cette conférence qui nous donne certainement beaucoup à penser. Il me semble que votre approche de la patience, effectivement, nous déplace par rapport à l'approche antique, même l'approche des premiers siècles chrétiens, parce que c'est une manière de l'envisager d'une façon encore beaucoup plus radicale, d'une certaine façon, et en même temps, nous fait bien saisir la ligne très spécifique d'un Lévinas ou d'un Maldiné par rapport à la ligne d'un Sartre ou, disons de façon plus générale, la ligne d'une philosophie de la volonté pure, comme vous l'avez évoqué. Bon, et il me semble que votre réflexion sur ce caractère très fondamental de la patience comme une forme d'endurance qui est la forme même de l'existence, nous ouvre peut-être une autre manière de réfléchir notre existence. Alors, je suis sûre que tel ou tel souhaitera réagir, poser des questions. Donc, la parole est bien sûr à ceux qui ont envie de réagir. Première question, toujours la plus difficile, mais les questions, même les plus simples, ont tout à fait leur place. Je pense que vous en êtes d'accord. Ça peut être des questions d'éclaircissement.
Alors là, c'est un peu une colle. C'est des questions que j'ai un petit peu travaillées, si vous voulez, mais l'Orient est si vaste, avec des auteurs si nombreux, si vous voulez, que j'ai pas les connaissances suffisantes, si vous voulez, pour dire quelque chose de sensé sur la question de la patience en Orient. Vous voyez, ça prend des visages très, très différents. En tout cas, l'Occident n'est pas du tout propriétaire de la question de la patience. Hein. Ça, c'est certain. Et peut-être qu'on pourrait trouver, si vous voulez, en Orient, des pensées de la patience qui nous permettraient de sortir un petit peu de la problématique trop occidentale d'un sujet s'affirmant lui-même, se voulant lui-même, se posant dans l'être. Voulant absolument être persévérant par lui-même, Mais bon, là, j'aurais un peu de mal à vous répondre, effectivement, par manque de culture, vous voyez, parce que c'est une vaste, c'est une très, c'est tout un monde, hein, l'Orient. C'est tout un monde. Hein. C'est donc. Et c'est vrai que, c'est, en tout cas, j'ai pas trouvé beaucoup de, j'ai pas trouvé de texte, par exemple, dans la phénoménologie qui, à un moment ou à un autre, pourrait faire le lien avec toute cette tradition. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu dommage, mais ça veut dire que c'est quelque chose à faire. Vous voyez, c'est que c'est un travail à réaliser et à écrire. C'est, voilà ce que je pourrais vous dire. Hein, c'est, merci en tout cas pour cet élément. Ah, ça pose de très nombreuses questions philosophiques. En tout cas, le poème était une source de réflexion philosophique. Bon, il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi à partir de la poésie. Hein, donc, mais. Oui, vous avez raison, il y a quelque chose. Oui, oui. Et pourtant, le nom est quasiment pas prononcé. Mais c'est vrai qu'on est souvent, quand on réfléchit sur la patience, si vous voulez, une des difficultés qu'on peut rencontrer, est-ce que la patience, vous voyez, cette réponse de la finitude humaine, à savoir je ne suis pas tout puissant, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas changer l'ordre du monde, donc il faut que j'apprenne à attendre, il faut que j'apprenne à supporter, je dois m'endurcir. Et en un sens, c'est la base de toute sagesse, si vous voulez, que l'endurcissement, l'attente, c'est un élément fondamental de la sagesse. Alors comment envisager une patience qui ne soit pas résignation? Alors, bien sûr, il y a d'autres réponses hein, que celle de Lévinas. Hein. J'ai tenté juste de suggérer que, par exemple, Lévinas ne tient pas à reprendre la réponse chrétienne. Il ne veut pas faire de la patience une grâce, par exemple. Que là, son propos tente de rester strictement phénoménologique, c'est-à-dire de revenir à une expérience. Alors, il veut pas, expérience entre guillemets, hein, à une expérience première. Qu'il nomme patience, hein. Et que effectivement c'est une mais il ne pré... encore une fois il le prétend, c'est souvent une difficulté en philosophie, les idées ne sont pas nouvelles et la philosophie ne cesse de reprendre des idées anciennes mais ne cesse de les approfondir, de les pousser plus avant, d'approfondir effectivement les analyses. Et ce que je voulais montrer, c'est que c'est quand même assez étonnant que cette question de la patience, qui a été si importante, Grégoire Le Grand disait que c'est la racine de toutes les vertus, pourquoi peu à peu dans l'histoire de la pensée, la patience a disparu, jusqu'à effectivement être quasiment absente de certaines éthiques. C'est quand même un phénomène étrange et qui ne peut pas être accidentel, qui est lié à l'évolution de la pensée, à la définition même de l'homme. Mais il y a là quelque chose de très surprenant, parce que jusqu'à la Renaissance, on trouve, chez Montaigne par exemple, il y a très très nombreux sur la patience. Hein. C'est omniprésent dans les textes de Montaigne. Alors, c'est vrai que quand on arrive au XVIIe siècle, je pense par exemple au traité de morale de Malebranche, on parle de la force d'esprit, on est quand même déjà beaucoup plus dans une pensée de la résolution. Et là, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui change peu à peu. Et du coup, bon, par rapport à cette conception d'un sujet qui va devenir de plus en plus autocréateur, la patience ne pourra devenir qu'une persévérance volontaire, mais plus effectivement une capacité de durer, en quelque sorte, avec le monde. Pas simplement de le subir, mais d'accepter ça, effectivement, de durer avec lui, en quelque sorte. Oui, ce que Lévinas évoque la capacité à être ouvert à ce qui est au-delà du possible, à ce qui est au-delà de toutes nos représentations, peut supposer tout un travail de l'imagination. Vous voyez, l'imagination peut tout à fait avoir sa place. Pas simplement pour élargir le champ des possibles, mais pour envisager effectivement ce qui pourrait en plus être au-delà de tout ce qui est imaginable. Donc finalement, il faut travailler l'imagination pour penser un inimaginable. Seul un imaginatif peut, d'une certaine façon, peut faire une expérience de l'inimaginable. Donc, c'est une question que je n'ai pas véritablement rencontrée dans les textes de Lévinas, mais par contre, dans la réflexion sur la patience, on peut tout à fait développer effectivement un lien entre le travail de l'imagination et la patience.
Et la patience.
Oui. Oui, bien sûr, le fait de vouloir absolument tout anticiper, déterminer a priori tous les possibles. Alors, bien évidemment, c'est un travail qui est nécessaire quand même. Le danger, c'est de réduire l'avenir à cet horizon qu'on a déjà prédéterminé. Et justement, le réel nous surprend toujours, et toujours autre, que ce soit dans la rencontre d'autrui ou que ce soit dans l'histoire. Alors c'est vrai que c'est un point que j'ai pas développé parce que je voulais pas parler, si vous voulez, de tous les auteurs, les analyses des traitants sur la question du comprendre, bien évidemment, ont été décisives pour toute la phénoménologie, et donc aussi bien pour Maldinet que pour Lévinas. Hein, donc c'est une question tout à fait décisive. Sans ces paragraphes des traitants sur la compréhension, justement, d'être comme être présent à la situation, y être, justement au-delà, et avec cette distinction entre expliquer et comprendre, qui n'est pas propre à Heidegger, mais bien évidemment, ça ouvre tout un champ. Alors, cela dit qu'il n'est pas anthropologique, hein, pour Heidegger. Hein, c'est pour... Oui. Oui. Alors, le terme d'anthropologie est difficile à manier. Hein, il est difficile à manier, mais il faudrait éviter de faire de la patience, vous voyez, simplement une capacité de l'homme. voyez, c'est parce que là, on reviendrait finalement à l'ancienne représentation de l'homme qui aurait des capacités comme cette capacité qu'est la patience. Or, ce que tente de montrer Lévinas, c'est que finalement, c'est comme dans l'épreuve d'autrui, dans l'épreuve du monde, que je me découvre patient, que je ne suis pas. Par exemple, la patience n'est pas une affaire de tempérament. C'est pas, il n'y a pas des hommes patients et des hommes impatients par tempérament. Et donc, que c'est pas une capacité qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Parce que, vous voyez, ça introduirait quelque chose d'accidentel. On est très, en quelque sorte, patient ou très impatient. Alors que là, il veut montrer que c'est une structure de l'existence. Vous voyez que c'est une structure de l'existence. Et donc, la patience, c'est justement cette possibilité de comprendre, c'est-à-dire d'être attentif à la façon dont l'autre se signifie lui-même, justement. Sans effectivement projeter sur lui mes représentations. Vous voyez, ce qui le réduit toujours à l'état d'objet. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, on se représente toujours autrui, mais le comprendre, c'est comprendre qu'il est au-delà des représentations que je m'en fais. Et donc, il n'est pas simplement un objet, mais qu'il est un existant que je rencontre. Et c'est là que se joue finalement la question de la patience.
Une autre question ? Oui ?
Ah oui, 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 oui.
Certes.
Oui, oui, oui. Les analyses qu'on propose là, si vous voulez, ne sont pas limitées à un champ particulier. Elles ne sont pas limitées, par exemple, au champ du travail philosophique ou de la poésie ou de la rencontre d'autrui. Bien évidemment, ça concerne aussi le champ du politique. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une capacité du politique, non seulement de savoir anticiper les possibles, ce qui est son travail, hein, son rôle, mais finalement aussi de comprendre, pour revenir, de comprendre une situation, d'y être, de voir ce qu'elle peut avoir de radicalement nouvelle, d'inimaginable, et qu'en cela, il y a en quelque sorte une souplesse aussi du politique qui peut-être doit tenter de voir ce qu'il y a de singulier, de radicalement singulier dans une situation. Que, bien évidemment, dans la vie politique, mais que ce soit pour un dirigeant ou que ce soit pour un simple citoyen, la patience... j'ai du mal à utiliser le mot vertu, parce que c'est plutôt dans l'Antiquité ou dans la philosophie médiévale que la patience est une vertu. Avec Lévinas, ça devient autre chose qu'une vertu. C'est un mode de l'ouverture au monde. Vous voyez et du coup, ça déplace quand même un petit peu les significations. Mais effectivement, le politique, c'est le domaine de l'action. Donc, à partir du moment où on réfléchit sur la finitude de l'action, sur ce que signifie agir, on retrouve les difficultés qu'on a évoquées, la difficulté ou de la résignation ou du volontarisme. Vous voyez que les deux formes d'impatience que j' ai tenté d'évoquer se retrouve également dans le champ du politique.
Une question là-bas d'abord, et puis si tu me donneras la parole.
Oui. Vous pensez aux notes sur le temps de Jean-Yves Lacoste ou dans Expérience et absolue? Oui.
Je suis pas trop sûre.
En tout cas, vous, effectivement, les questions chrétiennes, Lévinas ne les aborde pas, hein, ne les aborde pas, pour plusieurs raisons. Alors, il y a une raison un peu extérieure, si vous voulez, c'est que ce n'est pas sa tradition, si vous voulez. Il y a une deuxième raison qui est plus complexe à développer, c'est que il maintient quand même la thèse, qui est très discutable, hein, mais c'est quand même la sienne, que c'est la philosophie qui donne le sens de la théologie. Alors, on pourra en discuter longuement, mais comment dire, il y a quand même un acte philosophique lourd, si vous voulez, de Lévinas par rapport à cela. Donc, je pense qu'il défendra la thèse que c'est la philosophie qui donne le sens de la patience, qui ensuite, du coup, peut être interprétée théologiquement. Mais bon, ça, c'est faudrait le montrer longuement. En tout cas, vous mettez le doigt sur la difficulté, hein, propre à la patience. Hein. Comment c'est même un paradoxe. Hein, et penser la patience, c'est penser un paradoxe. À la fois, il ne faut pas sacrifier la dimension de passivité. J'ai tenté d'insister beaucoup sur ce point-là. C'est que toutes les philosophies où on tente de montrer que la souffrance n'est rien pour nous, voyez, sont quand même des pensées qui, finalement, sacrifient cette dimension de passivité dans laquelle, dans la souffrance, on est pris jusqu'à retirer, jusqu'au pouvoir de dire « je ». Vous voyez, et qu'il y a là une radicalité, si vous voulez, de la déposition, qu'il ne faut pas minimiser, bien au contraire. Mais quand même, en même temps, si on veut penser la patience, effectivement, il faut bien pouvoir penser une forme d'activité. Donc, vous voyez, où se trouve l'activité, quelle est la possibilité de l'activité par rapport à une telle dépossession. Et c'est vrai que Lévinas n'a pas voulu penser l'activité comme celle d'un sujet qui tenterait de prendre distance par rapport à sa souffrance, de la comprendre, de l'objectiver, de lui donner un sens, voyez, d'en faire un élément de son histoire personnelle. Il tente de montrer qu'il y a peut-être une autre liberté, dans cette idée qu'on peut du souffrir par et pour autrui. Donc ce sont des thèses difficiles, hein, d'autrement qu'être ou au-delà de l'essence, mais le par et le pour autrui seraient le lieu où, finalement, on pourrait penser une activité jusqu'au don de soi, jusqu'au sacrifice, si vous voulez, qui ne diminue pas, effectivement, la dimension de radicale passivité. Et c'est ce qui est quand même très intéressant dans ce concept de substitution, hein, qu'il développe dans Autrement qu'être, au-delà de l'essence. Hein. Mais, encore une fois, qui n'est pas à comprendre au sens chrétien du concept théologique de substitution. Hein, donc, c'est ni la sympathie au sens de se mettre à la place d'autrui, ni la substitution chrétienne. Hein, c'est vraiment un concept propre de substitution qu'il tente de développer.
Question ? Je vous donne d'avoir la parole, oui.
Alors, la transitivité, c'est une expression de Lévinas. L'expression souffrance transitive, c'est moi qui l'utilise, si vous voulez. Donc, c'est pour signifier effectivement que la patience n'est pas simplement réflexive. C'est-à-dire la possibilité de se comprendre, de se regarder soi-même et et donc, du coup, de prendre recul par rapport à l'expérience pour tenter de durer, si vous voulez. Mais qu'il y a une transitivité de la patience, justement, dans le pour autrui. Vous voyez, dans le pour l'autre de la patience. Et donc, la patience ne peut peut-être pas être pensée comme strictement personnelle, c'est-à-dire comme le rapport de moi-même à moi-même. Et que c'est peut-être que la patience ne peut peut-être prendre véritablement sens que dans cette relation interpersonnelle. Alors, l'expression m'embête un petit peu, hein, parce qu'elle n'est pas exactement de Lévinas, si vous voulez. Il ne faudrait pas la comprendre comme une intersubjectivité de sujets qui seraient déjà constitués. Hein. Mais interpersonnel est peut-être plus approprié qu'intersubjectif. Vous voyez, au sens où c'est une thèse constante de Lévinas, hein, il le disait déjà, même le temps ne peut pas se comprendre d'une façon strictement solitaire et personnelle. Hein, il y a un sens social du temps, et du coup, il y a un sens social de la patience. C'est ce que j'entendais par transitivité.
Hein. Est-ce qu'en fond, oui.
Alors, comment dire, je suis un peu embarrassé pour répondre. J'ai envie de dire à la fois, faire une réponse un peu de Normand, excusez-moi, à la fois oui et à la fois non. À savoir que, bien, effectivement, je pense qu'il me semble que plus, effectivement, on travaille cette possibilité de la patience, comment dire, il est possible de la réactualiser, en quelque sorte. En même temps, Lévinas y insiste, on est toujours au bord de l'abîme, elle est extrêmement fragile. Donc, les expériences passées ne sont pas nécessairement une garantie que l'on pourra faire face aux expériences futures. Vous voyez ? Donc, en un sens, on est toujours mis en demeure de renaître. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas s'appuyer sur le poids des habitudes, d'un savoir-faire, par exemple, qu'on aurait développé. Donc, c'est une question très intéressante, parce que c'est vrai que le travail de l'habitude, quand même, n'est pas rien. Hein, n'est pas rien. Mais en même temps, il ne nous protège pas. Hein, en même temps, il ne nous protège pas, et on a, en quelque sorte, tout à recommencer à zéro, à chaque expérience. Hein. C'est pas parce qu'on a été patient avec l'un de ses enfants qu'on le sera pour le second et pour le troisième. Vous voyez, c'est parce que la situation n'est pas la même et que finalement c'est une expérience nouvelle à chaque fois.
Parlez plus fort si vous voulez bien.
Je vais jusqu'à trois. En quelque sorte, il éprouve sa maladie. Donc, ça... Oui, oui, oui. Ah oui, oui, le terme d'espoir et d'espérance, c'est pas au sens chrétien du terme. Cela dit, il faudrait faire attention. Cela dit, le patient n'est pas qu'un patient. C'est aussi une personne. Donc, c'est en ce sens-là. Ah, c'est pas qu'un malade. Il est malade. Mais il est plus que sa maladie. C'est vrai, c'est vrai. Il subit le médecin et sa maladie.
Oui, Paul Corset.
Oui, oui, oui. Je pense que l'ensemble de mon exposé quand même tentait de défendre un peu cette idée-là, hein, qu'effectivement l'épreuve, toute épreuve est une épreuve du temps, et que effectivement la longueur du temps est ce qui rend les choses difficiles, laborieuses, pourrait-on dire. Et du coup, effectivement, la patience, c'est bien l'homme en se temporalisant, mais se temporalisant pas seul à partir de ses projets, vous voyez, c'est se temporalisant à partir de ce qui lui arrive. Et ce qui fait que par rapport justement à une conception, si vous voulez, de la temporalisation active, il faut aussi accepter ces moments de discontinuité, de rupture, et donc on est plus que ce que l'on anticipe et ce que l'on projette de soi-même. Et les événements de l'existence nous emmènent parfois bien au-delà et bien ailleurs que les lieux que l'on pensait pouvoir fréquenter. Et en ce sens-là, il y a bien une expérience de... C'est bien là le propre de l'expérience de la patience. Alors, vous savez que pour cette question de l'éthique, il faut être très prudent à propos de Lévinas. Hein. C'est pas une éthique... Il n'a pas écrit une éthique au sens où il aurait énoncé des grandes règles de l'agir. Par exemple, c'est pas une éthique en ce sens-là. Hein, il s'agit effectivement de penser en quel sens l'existence peut être éthique, mais il n'a jamais voulu écrire une éthique, et encore moins il y a un article qui pourrait peut-être c'est le journaliste qui a donné ce titre. Il y a un texte de Lévinas qui s'appelle l'éthique de la souffrance, et je pense que ce n'est pas un bon titre, hein, parce que je pense que Lévinas n'aurait pas écrit ça de lui-même, si vous voulez. Il n'a pas écrit une éthique de la souffrance. Il a médité, effectivement, il a tenté de méditer le lieu où l'expérience éthique advient. Vous voyez, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, où véritablement a lieu l'expérience éthique. Et il a tenté de montrer que ce n'est pas dans le rapport de soi avec soi, que c'est pas là le lieu véritablement de la première expérience éthique, mais dans cette condition d'otage, hein, qu'il décrit dans Autrement qu'être. Et c'est une question difficile, hein, cette question de l'usage du mot éthique chez Lévinas.
De Gramont.
Oui, bien sûr. Oui. Je pense, bien sûr, oui. Oui.
Alors, qu'est-ce qui donne temps, ce qui donne sens?
Oui. Ah, mais ce que décrit très bien Heidegger dans ses longues analyses sur l'ennui, c'est que l'ennui est une temporalité quand même bloquée. Et c'est vrai que... Oui, mais là, tu m'as bien repéré, mon attention. Et comment, effectivement... effectivement faire une contre-pensée de l'ennui, donc à une analyse de la temporalité qui serait une analyse d'une temporalité ouverte tout en respectant la passivité. Et c'est vrai que là les analyses de Heidegger sur l'ennui sont seulement magistrales, mais elles montrent effectivement les différentes formes à partir desquelles on pourrait penser effectivement peut-être une temporalité propre à la patience. Et c'est vrai que le terme d'événement, je l'ai pas prononcé, mais effectivement on est bien dans le cadre d'une pensée de l'événement, de ce qui fait pas de ce que... oui, c'est-à-dire que l'événement, c'est ce que je ne peux pas non seulement anticiper mais m'approprier. C'est pour ça que les crises sont aussi des moments de discernement, dans lesquels je me pose la question non seulement qui suis-je, mais que dois-je faire, et que tout, finalement ces questions surgissent d'une telle situation. Alors, il y a un auteur dont je n'ai pas parlé du tout, finalement c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a très peu de temps. C'est Michel Henry. Il ne parle jamais de la patience. Mais finalement, c'est quelque chose. J'ai réalisé cela il y a très peu de temps. J'ai relu l'essence de la manifestation, et en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fonction même de l'analyse de la phénoménalité qu'il effectue à partir de la question de l'auto-affection. Alors, je ne prétends pas avoir relu tous les textes de Michel Henry. Faire une étude. Mais au moins, j'ai retraversé l'essence de la manifestation, et c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'analyse de la patience. Et c'est assez intéressant. Pourquoi alors que la distinction entre Levinas et Michel Henry est à penser, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, mais il y a à la fois des proximités et des grandes distances. Mais il y a l'un qui développe toute une pensée de la patience, et l'autre qui ne développe pas une pensée de la patience. C'est, par rapport à la phénoménologie, ça pose une question. C'est pour ça que je... Oui. Ah, il y a une pensée de la souffrance, ça, bien évidemment. Il y a, oui. Oui. Oui, mais elle n'y est pas. Alors, est-ce que... Pour quelle raison n'y est-elle pas? Bon, je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin mes investigations, mais je pense que c'est une question intéressante.
Question? Je vais t'en poser une. Vous nous avez finalement parlé beaucoup moins de Maldiné que d'Emmanuel Levinas. Oui. Y a-t-il une raison?
Là, c'est une raison. Il y a deux raisons. C'est que Maldiné est un penseur de l'événement. Il a quelques passages importants sur la patience. L'endurance de l'altérité, c'est une expression de Maldiné. Mais c'est vrai que les analyses sont beaucoup moins longues et développées que celles qu'on trouve dans Totalité et Infini et dans Autrement qu'être au-delà de l'essence. Donc du coup, c'est vrai que j'ai privilégié Levinas parce que là, on trouve des analyses beaucoup plus importantes. Cela dit, sur toute cette question de l'événement, de l'irréductible aussi, bien évidemment, Maldiné est tout à fait décisif. C'est pourquoi j'ai quand même tenu à mentionner les deux concepts fondamentaux de Maldiné, dont Levinas disait que pour lui, c'était un grand maître. J'ai découvert ça dans les archives Levinas, à l'IMEC. C'est dans le cours sur l'autothéologie, dans les notes de cours sur l'autothéologie, il dit qu'effectivement, que pour lui, Maldiné est un grand maître. Et il pense au livre « Regard, parole, espace », essentiellement ce... Donc, Levinas connaît ces textes de Maldiné.
Quelqu'un veut-il encore poser une question ? Oui.
Oui, merci. Oui, oui, oui. À un moment donné, j'ai évoqué cette expression-là. C'est une des dimensions très importantes de la patience. À savoir que chaque être a sa temporalité propre. Et donc, effectivement, le respect de cette personne consiste aussi à le laisser mûrir, à lui laisser son temps propre. À ne pas le brusquer, à ne pas lui imposer un temps qui n'est pas le sien. Mais effectivement, j'ai voulu montrer que cette expérience de la patience n'est pas la seule dimension de la patience. Vous voyez, parce que ce qui est très important dans cette dimension de la patience, c'est ce thème du laisser-être qu'évoque Lévinas à plusieurs endroits de son œuvre. La patience est un laisser-être l'autre. Mais qu'à côté de cela, c'est vrai qu'il est aussi important de tenter de décrire effectivement l'événement de la rencontre, la rupture propre à la patience. Et donc la souffrance propre à la patience, qui est peut-être plus difficile à décrire, si vous voulez, dans le simple laisser-être. Vous voyez, c'est... Alors, cela dit, se laisser être pourrait prendre des dimensions très, très vastes, puisque ça ne vaut pas que pour le rapport à autrui. Ça peut avoir lieu, par exemple, dans le travail spirituel. Vous voyez, laisser venir, laisser mûrir les questions, autrement dit, ne pas céder à la précipitation dans son propre travail. Laisser les paroles faire une place en soi. Donc là, il y a beaucoup de dimensions où l'on pourrait évoquer ce thème-là et cette dimension-là de l'expérience, parce que c'est tout à fait constitutif de l'expérience, que ce soit l'expérience d'autrui, l'expérience du monde ou l'expérience de soi. Et dans tous ces champs-là, effectivement, le laisser-être est une dimension très importante et qui n'est pas nécessairement à opposer, si je n'ai pas eu le temps de le développer, si vous voulez, mais ça ne signifie pas qu'on ne fait pas face aux urgences. Souvenez-vous la phrase de la Bible, ce que tu dois le faire, fais-le vite. Fais-le vite, ça ne veut pas dire tout de suite. Ça ne veut pas dire la précipitation. C'est-à-dire qu'on peut prendre urgence, si vous voulez, dans le sens d'une exigence, qui ne signifie pas qu'on force les choses, mais qu'il faut faire ce qu'on a à faire. Et donc, il me semble important de ne pas opposer une pensée, effectivement, du laisser mûrir, si vous voulez, avec une pensée de l'urgence du monde. À savoir qu'on n'a pas, toujours tout le temps devant soi. Si vous voulez, quand un médecin doit prendre une décision, parfois il a quelques minutes pour prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à développer un travail de compréhension de la situation. Et ça ne veut pas dire qu'il doit céder à la précipitation. Mais c'est ce qui fait la grande difficulté de son travail. C'est que parfois, il doit à la fois tenter de comprendre la situation et en même temps prendre une décision dans un temps extrêmement limité. Et donc, faut peut-être aussi se méfier, si vous voulez, d'une éthique dans laquelle on aurait l'éternité toujours devant soi. Vous voyez ? Parce que c'est pas nécessairement ce sens-là, laisser être. C'est-à-dire qu'il y a bien un temps propre des choses et des êtres, mais que ce n'est pas nécessairement incompatible avec une forme d'urgence. Le philosophe, il ressent l'urgence d'écrire. Ça ne veut pas dire qu'il écrit tout de suite. C'est pour mieux pas, d'ailleurs. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Voilà. Elle peut être... Il y a plusieurs descriptions, si vous voulez, de la patience, par exemple, qui peut être un vice. Si vous voulez, j'ai évoqué très rapidement la patience de l'avare. Il n'y a pas plus patient qu'un avare. Et en même temps, on peut très bien interpréter cette patience, en fait, comme une forme d'impatience. Parce que l'avare, c'est celui qui sait attendre. Mais dans, le fait d'être obnubilé par le fait de gagner toujours plus d'argent. Si vous voulez. Donc, d'une certaine façon, la patience, c'est un moyen dont se sert l'avare pour aboutir à ses fins. Et donc, je reprends juste cet exemple-là pour dire que ce partage entre une bonne et une mauvaise patience, hein, pour parler un peu brutalement, on peut tenter de le faire en se demandant effectivement si sa patience, elle est ouverte ou si elle est fermée. Autrement dit, si c'est une patience qui est une forme d'impatience, si vous voulez, ou si c'est une patience justement qui sait attendre, qui sait prendre le temps, qui sait respecter le temps. Vous voyez, c'est parce que bien évidemment, il y a une patience qui est, il y a des formes de patience très dangereuses. Vous voyez, qui sont des endurcissements, des fermetures. J'ai utilisé l'expression kierkegaardienne de c'est de l'ordre du diabolique, mais au sens de Kierkegaard, à savoir que du démoniaque, je suis enfermé avec moi seul, ce qui est la définition propre de l'enfer, en quelque sorte. Hein, c'est effectivement la patience peut avoir une dimension tout à fait négative. Et je pense que la distinction entre patience ouverte et patience fermée peut-être permettre de faire la différence entre ces deux façons de vivre la patience. Oui, on pourrait, effectivement, ce couple de concepts pourrait être, il me semble qu'on peut tout à fait s'en servir, à condition effectivement de montrer qu'il ne s'agit pas nécessairement de les opposer, hein, qu'il y a une forme de dépossession dans la patience qui permet une forme de maîtrise. Et en même temps, une maîtrise qui est un accaparement, ce qui rend impossible toute forme de dépossession. Donc il faudrait bien préciser l'interaction de ces deux concepts. Mais effectivement, ça pourrait... Oui.
Puisque la cupidité est la racine de tous les maux... Absolument.
Ça va bientôt avoir le dernier mot. Voilà, donc nous arrivons bientôt à la fin de la soirée. Si quelqu'un veut encore poser une dernière question. Eh bien, sinon, il me reste à vous remercier très chaleureusement, mais je crois que vous nous avez bien fait comprendre que la patience est autre chose et plus qu'une simple vertu, qu'elle est ouverture, qu'on devient soi-même qu'en étant affecté, touché par une altérité. Je crois qu'aussi, même à travers encore la dernière question, vous avez aidé à penser ce paradoxe d'une liberté dans ce qui est non-liberté. Et bon, il me semble que je pense que nous garderons en mémoire votre réflexion, en espérant bien vous lire. Je suppose que tout cela donnera lieu à un article ou à quelque autre chose, ou peut-être un livre. En tout cas, un immense merci. Et puis, je remercie aussi vous tous qui avez assisté et participé à cette soirée par vos questions, votre attention. Et je remercie aussi tous ceux qui auront à cœur de participer aux frais de cette soirée. D'avance, merci. Et très bonne fin de soirée et encore merci.